Je pensais que nous pourrions nous pencher sur un aspect du combat pour l'avancement de l'Évangile. Et cet aspect-là, c'est celui de l'intercession. Mais au niveau de l'intercession, un aspect qui très souvent nous échappe, même quand nous sommes des intercesseurs. Alors nous allons essayer de voir en quoi, précisément, cet aspect de l'intercession consiste et pourquoi très souvent il nous échappe. On m'a dit, quand je suis arrivé ici, que cette mission a été préparée. Je crois que c'est vrai. Je l'ai éprouvé moi-même. J'ai vu qu'il y avait vraiment une somme de prières. Je me suis senti moi-même très soutenu et renouvelé. Hier soir, j'ai donc donné ma 23e prédication depuis un peu plus de 15 jours que je suis ici, et comme vous le savez, de toutes mes forces. Mais en réalité, si Dieu n'était pas là, je crois qu'au bout d'une semaine, j'aurais dû rentrer à Paris absolument épuisé, crevé. Et pourtant, le Seigneur renouvelle dans sa grâce. Il donne force, il donne puissance, parce que réellement, des chrétiens sont là et prient. L'intercession. Lisons un texte dans la lettre aux Colossiens, au chapitre 4, nous lisons deux versets, les versets 12 et 13. J'ai pensé que nous allons parler d'un homme de Dieu, d'un intercesseur. Voici ce que dit l'apôtre. Épaphras, il s'agit de lui. Épaphras, qui est des vôtres, dit l'apôtre, vous salue. Colossiens 4, 12. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Voilà un intercesseur, hein? Afin que, parfaits et pleinement persuadés, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hierapolis. L'intercession. Disons quelques mots pour commencer sur la prière. Chacun sait ici que la prière est une sorte de respiration permanente au plan spirituel, de même que nous avons besoin de respirer pour nous oxygéner, n'est-ce pas? Eh bien, nous avons aussi besoin de respirer spirituellement, et cette respiration spirituelle, c'est la prière, laquelle précisément permet à l'oxygène spirituel de la présence de Dieu d'être constamment dans nos poumons spirituels, hein, pour nous revitaliser, nous fortifier. D'où cette parole de l'apôtre aux Thessaloniciens, en 1 Thessaloniciens 5, 17, « Priez sans cesse !» De même que nous respirons sans cesse, nous prions sans cesse. Savez-vous qu'il n'y a que la respiration que nous faisons sans cesse? Et la respiration devient une sorte d'automatisme, heureusement, parce que nous pourrions oublier de respirer en dormant. Alors c'est un automatisme chez nous qui est absolument remarquable, une création de Dieu. Dieu l'a voulu automatique pour ne pas qu'il puisse arriver que nous oublions de respirer. Eh bien, nous avons aussi à prier sans cesse, mais pas de manière automatique. Je dirais de manière spontanée, en gardant un lien constant avec le ciel, pour respirer constamment cet oxygène pur, cet oxygène spirituel de la présence de Dieu, cet oxygène du ciel. Souvent, je prends cette image du scaphandrier dans l'eau, le scaphandrier dans l'eau qui descend très profondément, a besoin d'être relié à la terre par un tuyau afin de pouvoir respirer. Il évolue dans un milieu qui n'est pas le sien. Il est dans l'eau, n'est-ce pas? Mais l'eau n'est pas son milieu. Il y travaille, c'est son travail. Il y fait toutes sortes de choses, mais il a besoin de ce lien constant avec l'air libre là-haut. Et si ce lien venait à être coupé, c'est l'asphyxie, c'est l'étouffement, c'est la mort. Alors le scaphandrier est dans l'eau, mais il n'est pas de l'eau. nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous avons besoin donc de cette respiration perpétuelle. Alors, quelle joie de pouvoir prier partout, ici, on l'a fait. Quelle joie de pouvoir prier au volant de la voiture. Moi, je passe des heures à prier en voiture. Pour moi, la voiture, c'est l'endroit, le lieu, où je passe le plus de temps avec le Seigneur. Évidemment, je suis un grand voyageur devant l'Éternel. En Europe surtout, je sillonne l'Europe avec ma Peugeot. Et je ne sais pas si Peugeot savait que, en créant ma voiture, ils allaient faire un sanctuaire roulant. C'est un sanctuaire roulant. Puisse le Seigneur faire de nos voitures des sanctuaires roulants. Fantastique, priez pour cela. Que le Seigneur soit... Mais quand je dis à ma femme cela, n'est-ce pas, que j'aime prier en voiture et tout ça, elle me dit, garde quand même les yeux ouverts, hein. Quand tu pries en voiture, bien sûr. Ceci me fait penser à ces deux Suisses qui, un jour, sont venus chez nous à Paris. J'avais été les chercher à la gare de Lyon, à Paris. Et puis, ils descendaient de leur Brévine. La Brévine est une région de Suisse qu'il est convenu d'appeler la Sibérie de la Suisse. Il y fait excessivement froid, des températures jusqu'à moins 40. En hiver, cet endroit est appelé la Sibérie de la Suisse. Ils descendaient de leur tranquille Brévine en Suisse pour se retrouver à Paris dans une gare, la gare de Lyon, où passent par jour 1 500 000 passagers. C'est vous dire que ils sont arrivés là dans une foule considérable, complètement perdue. Ils se demandaient ce qui leur arrivait de voir ces gens qui couraient. Ils se demandaient pourquoi les gens couraient. Et puis, je suis arrivé pour les prendre là. Et une fois dans ma voiture, j'étais au volant à Paris. Donc, à Paris, nous avons autant de voitures que d'habitants à Montréal. Alors, je l'ai pris dans ma voiture et puis, nous sommes partis chez nous. Et bien sûr, énormément de voitures. Hein, à Paris. Alors, en roulant, je leur ai dit, frère, on est tellement heureux de vous avoir, si vous voulez, on pourrait passer un moment à prier ensemble. J'étais au volant de ma voiture, au milieu de milliers de voitures qui arrivaient de partout, de droite, de gauche, qui nous doublaient, qui arrivaient en avant, en arrière, et eux qui n'avaient pas cette habitude-là, prier dans cet embouteillage. Alors on a prié, mais moi je ne savais pas ce qui se passait dans leur tête. Et le premier, j'ai commencé. Il y avait un Suisse assis à côté de moi, il y en avait un autre en arrière. Et moi, j'étais au volant. Et en conduisant, je dis, merci Seigneur pour le voyage de ces deux frères. Je te demande de les bénir, que nous ayons du bon temps ensemble. Seigneur, fais-nous du bien. Merci de les avoir gardés pendant le voyage. J'étais en train de prier quand tout à coup, j'ai vu la tête de ce Suisse à côté de moi, devant moi, pour savoir si j'avais gardé les yeux ouverts. Quelle joie de pouvoir prier les yeux ouverts. Vous savez qu'ici, moi, je prie les yeux ouverts. Quand je suis dans vos forêts comme ça, là, moi, je regarde cette forêt, je loue le Seigneur. J'étais en Gaspésie, des sites, des panoramas splendides. Moi, je garde les yeux ouverts quand pour louer le Seigneur pour ce qu'il a fait. Moi, je ferme les yeux à Paris, oui, parce qu'il y a des voitures, du béton, du verre, de l'acier, de la fumée. Alors là, je ferme les yeux. Mais quand je me trouve là dans un cadre comme le vôtre, je prie les yeux ouverts. David disait, quand je contemple les cieux ouvrages de tes mains, il n'avait pas les yeux fermés là, il avait les yeux ouverts. Ah, la prière, ça nous fait du bien. Alors Epaphras était un intercesseur. L'intercession est un des aspects que la prière peut avoir. L'intercession, comme chacun le sait, intercéder, c'est intervenir auprès de quelqu'un en faveur d'autrui. Et quand il s'agit de la prière, eh bien, c'est intervenir auprès de Dieu en faveur d'autrui. Vous l'avez fait pour cette campagne, et je crois que Dieu vous a exaucé, il en a touché plusieurs, dans sa grâce, de vos amis, de vos parents, ce qui nous a réjouis. Epaphras va maintenant nous enseigner à prier. Vous savez pourquoi? Parce que il n'est pas interdit d'imiter, dit la Bible, d'imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses, Hébreux 6:12. Hein? L'apôtre dit que l'écrivain sacré, que dont nous ignorons le nom, écrit ce qui suit en Hébreux 6:12, que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. il n'est pas interdit d'imiter les hommes de Dieu. Tout à l'heure, il était question de Spurgeon, maintenant il est question d'Épaphras. Épaphras, qui était-il? Il a fait partie de ces as dont l'apôtre s'était entouré pour faire équipe avec eux. Et il y avait plusieurs as autour d'Épaphras. Comment cela, plusieurs as? Il y a eu, par exemple, pour commencer, Ananias. C'est le premier as. Ananias, qui a conduit l'apôtre au Seigneur. Fantastique, hein? Puis ensuite, une fois l'apôtre converti au Seigneur, Ananias est allé dans l'ombre, et c'est un Barnabas, deuxième as, et qui a pris la relève, avec lequel l'apôtre Paul a fait équipe pour aller évangéliser plus loin. C'était la première équipe missionnaire. Ananias, Barnabas, troisième as, Silas. Vous savez pourquoi as maintenant, hein? Silas. Alors, il a fait équipe avec Silas après Barnabas. Et ensuite, il y a eu d'autres as dans son équipe. Il y a eu Stéphanas, il y a eu Aquilas. Et voilà maintenant, Épaphras. Autant d'as. Autant d'as qui ont entouré l'apôtre dans son combat pour l'avancement de l'Évangile. Et voyez-vous, si l'apôtre n'avait pas parlé d'Épaphras, nous n'en aurions rien su. À peine 5 allusions à cet homme, dans l'Épître aux Colossiens et dans l'Épître à Philémon, c'est tout. En dehors de cela, Épaphras est un illustre inconnu. Et c'est pourquoi j'ai désiré vous parler de lui. Pourquoi? Parce que je me suis dit, si je parle de l'intercesseur qu'a été le Seigneur, de sa vie d'intercesseur, et de son ministère d'intercesseur aujourd'hui, auprès du Père, hein, plaidant notre cause, plaidant la cause des perdus pour leur salut, intercédant auprès du Père, je me suis dit, mais on va vers tous des complexes, et on va sortir d'ici les bras en bas. Vous nous demandez, Alain Chouaquier, d'être intercesseur comme le Seigneur l'a été, c'est pas possible. Et en effet, son ministère d'intercesseur est tout à fait exceptionnel. Hein, quand on se penche sur la vie d'intercession du Seigneur, quelque chose de merveilleux, on est confondu de voir comment... Alors j'ai pris un illustre inconnu, pourquoi? Pour que vous puissiez vous reconnaître dans cet illustre inconnu, et moi aussi. Pour que nous puissions nous dire, si un illustre inconnu a pu prier de cette manière-là, pourquoi pas nous? Alors, Épaphras, il ne nous est pas connu pour ses formidables prédications. Peut-être savait-il prêcher, on n'en sait rien. Mais l'apôtre ne le fait pas savoir. Il savait prier, il ne cessait de prier. Il ne nous est pas connu pour ses puissantes prédications. Il ne nous est pas connu non plus pour avoir été au bénéfice de dons spirituels exceptionnels, là non plus. Il ne nous est pas connu pour avoir été au bénéfice de capacités d'administrateur, par exemple, d'administration, de chef. Non, il était dans l'ombre de l'apôtre. Mais c'était un homme dont l'apôtre avait besoin, pour son ministère, d'intercesseur. Ah, si nous savions combien on priait pour nous, la plupart du temps à notre insu, c'est-à-dire sans que nous l'ayons su. Souvent, quand nous nous étions trouvés dans des circonstances difficiles, souvent quand nous nous étions crus seuls dans des circonstances difficiles, le Seigneur avait mis des fardeaux sur celui-ci ou sur celui-là dans leur cœur pour qu'ils prient pour nous sans que nous l'ayons su. Oh, il m'est arrivé il y a peu de temps en Suisse l'événement suivant. Entre deux campagnes d'évangélisation, j'avais un jour de libre et j'en avais profité pour aller entendre un serviteur de Dieu qui passait à Lausanne, dont j'avais entendu parler, qui avait été missionnaire au Liban, et je m'étais dit, c'est l'occasion d'aller l'entendre. Tu es libre ce soir. Alors j'étais allé l'entendre. Il avait donné un bon message à des chrétiens, il édifiait les chrétiens, ce n'était pas un évangéliste mais un docteur de la parole. Il avait donné un bon message, un bon enseignement, Et au terme de son étude, il s'était tenu à la porte et il saluait ceux qui sortaient, ceux qui quittaient la réunion. Et quand je suis arrivé, je lui ai serré la main, je lui ai dit, mes chers frères, je suis tellement content de vous serrer la main, de vous rencontrer, j'ai entendu parler de vous. Il m'a dit, qui êtes-vous? Je dis, je suis Alain Choitier de Paris. Dès que je lui ai dit cela, il m'a dit, mais vous êtes Alain Choitier? Il m'a pris dans ses bras. Il m'a serré fort sur sa poitrine. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Il n'avait pas fait cela avec tout le monde. Heureusement, il y avait bien de monde, il y avait peut-être 400 personnes. Il m'a dit, mais écoutez, monsieur Choitier, vous ne l'avez peut-être pas su, hein. Mais pendant des années, j'ai prié pour que Dieu vous sauve, pour votre conversion. Pendant des années, j'ai prié pour que Dieu vous sauve. Alors moi, j'étais tombé des nues, j'avais prié pour que Dieu me sauve, mais je ne vous ai jamais connu. Non, il m'a dit, vous ne m'avez jamais connu, moi non plus, je ne vous connaissais pas. Mais celui qui vous a conduit au Seigneur, Ralph Chalice, je suis grand ami avec lui. Et savez-vous ce que nous faisions? Nous nous écrivions et nous nous envoyions des noms. Et il me disait, Ralph Chalice, prie pour Alain, prie pour Alain, prie pour Alain, prie pour Alain. Moi, je n'en savais rien du tout. Et lui était au Liban. Hein, moi, j'étais à 100 lieues de penser qu'au Liban, on priait pour mon salut. L'intercession. Et puis cet homme m'a dit, non seulement maintenant je vous vois chrétien, je n'ai pas prié en vain, hein. Mais je vous vois même serviteur de Dieu. Vous servez le Seigneur, mais quel exaucement pour moi. Merci Seigneur. Il était vraiment béni, il en avait des larmes. L'intercession. On prie parfois sans rien voir. Vous avez prié peut-être pour des personnes ici. Vous avez désiré les voir ici, elles ne sont pas venues, vous êtes découragé. Non. Ce missionnaire a prié des années pour moi. Il n'avait pas su ce qui s'était passé. Puis tout à coup, il me rencontre, non seulement sauvé, mais serviteur de Dieu. Il y a peut-être des serviteurs de Dieu, des servantes du Seigneur que Dieu prépare à Beauport, hein? Vous avez prié pour eux, ils ne sont pas encore venus, l'heure n'était pas là encore là. C'est le Seigneur qui sait. Et un jour, le Seigneur va les sauver. Le Seigneur, un jour, va vous remplir de joie. Continuez l'intercession. Continuez-la, ne vous découragez pas. Hein, et le Seigneur va vous exaucer, je suis persuadé. Vous savez, le Seigneur ne nous dit pas toujours ce qu'il fait. Souvenez-vous d'Acte 12. Rapidement dit, Pierre est en prison, dans les chaînes, dans l'obscurité d'une prison très inconfortable en ce temps-là. Hein. Pas du tout ces prisons avec télévision en couleur, terrain de sport, etc., avec des matelas tout à fait corrects. C'était pas ce genre de prison qu'on avait aujourd'hui. Les prisonniers font la grève en France. Hein, ils veulent de meilleurs matelas, de meilleures télévisions, etc. Alors c'était autre chose comme prison. Et l'apôtre était là, dans les chaînes, enchaîné à des gardes romaines, à des gardes... en tout cas, des gardes qui étaient là. Hein. Le texte ne précise pas si c'était des gardes romaines, mais des gardes qui étaient là. Il était enchaîné, Pierre, derrière une porte de prison. Et qu'est-ce qu'il a dit? L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Hein? Vous connaissez ça? Elle n'avait pas cessé. Jour après jour, jour après jour, jour après jour. Et c'est ce Pierre en prison dans les chaînes et dans l'obscurité d'une prison inconfortable est comme une illustration, je dirais, des perdus qui sont là aussi dans leurs chaînes, derrière la prison de leur péché. Dans la prison de leur péché, derrière ces portes de fer, dans la nuit, dans l'obscurité, enchaînés à des démons, souvent. Mais l'Église ne cessait, ne cessait, ne cessait de prier pour Pierre. Puis tout à coup, voilà pourquoi tout à l'heure je disais, à notre insu, un ange est intervenu. L'Église n'en savait rien, elle continuait de prier, Seigneur, tire-le de là, Seigneur, sauve-le de là. L'ange est intervenu. Le ciel s'est ouvert sur la prison. L'Église n'en avait rien su. Les chaînes de Pierre sont tombées. Mais mes amis, l'Église n'en avait rien su. Un ange a secoué Pierre. Allez, debout. Lève-toi. Allez, sors. Pierre, on aurait pu lui dire, mais ça va pas. Il y a une porte blindée là. Non. Pierre a écouté l'ange. Il a été vers la porte. La porte de fer. s'est ouverte devant lui, sans le secours d'aucune main, par la puissance de Dieu. La porte s'est ouverte. Aujourd'hui, les portes s'ouvrent, hein, on arrive dessus, hop, elles s'ouvrent, par l'électronique. Mais avec Pierre, c'était pas l'électronique. C'était la puissance de Dieu, une porte de prison. La porte s'est ouverte. Reprenez ces textes d'Acte 12 chez vous. Vous allez voir la puissance d'une réunion de prière. La puissance d'une intercession fidèle. La porte de la prison s'est ouverte devant Pierre. Il s'est retrouvé libre. L'Église n'en savait encore rien. Vous avez prié? Vous avez lutté? Ça a certainement mis des âmes en recherche, ça. Pierre est sorti de là et il s'est retrouvé entre deux portes. Vous ne savez pas, vous, ce que Dieu a fait pendant que vous avez prié. Et pendant que vous priez, toujours le Seigneur ne nous dit pas tout ce qu'il fait, heureusement, parce qu'on n'arrêterait pas d'écrire. Hein? On ne pourrait pas prendre des notes, il faudrait toutes les dactylos du monde pour savoir ce que le Seigneur, tout ce que le Seigneur fait. Mais le Seigneur fait des choses qu'il ne nous dit pas. Moi, je suis persuadé, vous avez prié, je suis convaincu que le ciel s'est ouvert sur plusieurs âmes et qu'ils sont maintenant en recherche. Puis Pierre était dans la rue et qu'a-t-il fait? Il a réfléchi un moment. Il était entre deux portes, entre la porte de prison et la porte derrière laquelle une église était en prière, hein, chez Jean surnommé Marc, dans la maison de sa mère. Et tout à coup, il a décidé d'aller là. Il a commencé à taper. On priait derrière. Seigneur, tire Pierre de là, sauve-le, tire-le de là. Il était déjà là. Seigneur, fais quelque chose, il tapait lui. Mais c'est fantastique quand on réfléchit à ces choses-là. Le Seigneur avait déjà agi. Mais voyez, la servante Rode est allée à la porte. Qui est là? C'est moi, Pierre. Folle de joie, elle est allée l'annoncer à la réunion de prière. Reprenez ces textes. Alors on lui dit, qui tape? Parce qu'attention, il y avait des persécutions. Hein. Qui est là? Il ne fallait pas ouvrir tout de suite. Qui est là? C'est Pierre. Il y en a un qui lui a dit, t'es folle? Il est en prison. Moi, ça m'a fait du bien. Parce qu'il priait, il priait, mais il n'était pas à même de croire qu'il pouvait sortir de là, par la puissance de Dieu. Ça nous ressemble. Hein. On prie, on ne croit pas que Dieu peut agir puissamment. Alors quelqu'un lui a dit, mais tu es folle. Textuellement, hein. Et puis le plus spirituel d'entre les frères qui était là lui a dit, « Ah, c'est vrai, mais c'est peut-être son ange. » On n'arrivait pas à penser que c'était lui qui était là. Alors on avait tardé à ouvrir. Or lui était là. C'est lui qui était là. Alors qu'a-t-il fallu faire? Il a fallu arrêter de prier. Parce qu'il y a un temps pour la prière. Et puis il fallait maintenant agir. Il y a deux temps, hein. Il y a l'intercession et l'action. Il a fallu se lever et aller ouvrir cette porte. Cette porte-là ne se serait jamais ouverte si on avait continué de prier. Tandis que la porte de prison, elle s'est ouverte. Dieu ouvre les portes que nous ne pouvons pas ouvrir. La porte de prison. La prison des perdus, la prison du péché des hommes. Ça, Dieu le fait, Dieu le délivre. Mais il y a des portes qui sont à nos dimensions, que nous pouvons aller ouvrir. Alors, je dirais que Pierre était entre deux portes. Il était en danger. Alors, une question j'ai posée à Dieu. Seigneur, pourquoi cet ange n'a-t-il pas touché à cette deuxième porte? Pourquoi, par ta puissance, la porte de fer, c'est écrit, la porte était de fer. Pourquoi cette porte blindée, cette porte de fer, l'ange y a-t-il touché pour l'ouvrir? Et pourquoi n'a-t-il pas touché à la deuxième porte? Explique-moi ça, Seigneur. Moi, ça m'avait posé un problème. Je me suis dit, si ton ange a eu cette puissance d'ouvrir la porte de fer, une porte de maison, hein, généralement, elles sont en bois. Hein, ton ange aurait donné un coup d'aile, elle aurait volé en éclats, et Pierre serait rentré. Pourtant, Pierre y tapait, et la porte restait fermée. Simplement que s'il y a des portes que la prière ouvre, il y a aussi des portes que la prière n'ouvre jamais. Ça, il faut l'apprendre. S'il y a les portes de fer que la prière ouvre, la prison des hommes, hein, il y a d'autres portes, les nôtres, celles qui sont à notre dimension, à notre niveau. Pourquoi Dieu n'avait pas touché à cette deuxième porte? Simplement que les chrétiens de cette réunion de prière pouvaient le faire. Comprenez? En évangélisation, Dieu a ses portes, les portes de fer. Ces portes pour lesquelles nous ne pouvons rien. Hein? Les chaînes des hommes, là, on ne peut rien pour ça. Hein? Seul Dieu peut les briser. Mais nos portes, attention. Dieu nous les laisse et il demande que nous allions les ouvrir. Les premières portes, eh bien, c'est pour la prière, l'intercession. Ouvrir avec Dieu dans la prière pour les chaînes des hommes, pour qu'elles tombent, pour que le ciel s'ouvre sur les perdus, pour que les portes de leur prison s'ouvrent pour leur libération. Les portes de bois, notre action. Pour aller les ouvrir, ça c'est le symbole de notre action. Et nous avons chacun des portes à ouvrir à nos dimensions. Hein? À Dieu les portes de fer, à nous les portes de bois. Ok? C'est clair? Et continuons avec Epaphras maintenant. Oh, disons vite comment il priait. L'apôtre dit, cet homme ne cesse de prier. Il ne cesse. Restons quelques instants sur cette expression. Qu'est-ce que ça veut dire, il ne cesse? Ça veut dire simplement que chez lui, l'intercession ne se faisait pas par à-coup. Ou au gré de ses bonnes dispositions intérieures, quand... Non, pas du tout. Il ne cesse, c'est-à-dire qu'il cultivait l'intercession. Un homme qui tous les jours intercédait fidèlement, sans cesse, avec Paul, dans la prison. Il priait. C'est fantastique, ça. Et Paul le regardait. Dans l'intercession. Il l'entendait. Seigneur, bénis un tel, bénis une telle. Seigneur, bénis cette église. Seigneur, bénis. Seigneur, sauve. Seigneur. Et cet homme n'arrêtait pas. Il cultivait l'intercession. Il priait en toutes circonstances. Dieu cherche des intercesseurs, est-il écrit. Est-ce qu'il les trouve? Ces as de l'intercession. Est-ce qu'il les trouve parmi nous? Et Daniel était un intercesseur. Si vous lisiez Daniel 6. Oh, nous n'avons pas le temps de regarder ces textes, mais je rappelle l'événement. Daniel, lui, était bien sûr en captivité, loin de son pays, loin de Jérusalem. Hein? Et puis, il servait là, il était devenu premier ministre de Babylone, fantastique. Il avait été installé à un poste très élevé pour son intelligence, sa sagesse. Tout à coup, un ordre du roi est tombé, là, de Darius. On ne doit plus adorer quiconque pendant un mois que lui, que Darius, au risque de sa vie. L'ordre est tombé. Daniel en entend parler. C'est Daniel qui avait l'habitude d'aller dans sa chambre pour prier trois fois le jour, pour se mettre à genoux, pour ouvrir les fenêtres sur Jérusalem. Quand il a entendu cet ordre de Darius, il est écrit que Daniel se rendit dans sa chambre, qu'il se mit à genoux comme d'habitude et que trois fois le jour, il a continué de prier, ses fenêtres ouvertes sur Jérusalem, comme il en avait l'habitude. Il n'avait rien changé. C'est pas parce qu'un ordre était arrivé que tout à coup, il avait dû changer quelque chose à sa vie d'intercession. Il a continué de prier comme d'habitude. Tandis que nous, que nous arrive-t-il? Ah, on va avoir une campagne d'évangélisation. Alors on va prier. Hein, c'est ça? On va redoubler de prière. Mais nous devrions prier toute l'année comme nous avons prié pour cette campagne. Toute l'année. Alors là, oui, on voit des choses fantastiques. Et comme je vous l'ai peut-être déjà dit, en créant l'église de Nation, mon église à Paris, parce que le Seigneur m'a donné la grâce de la fonder, voilà pourquoi j'aime venir chez vous. Vous êtes une petite église et je sais ce que c'est que d'avoir une petite église. On a commencé avec une poignée. On était 5 quand on a commencé. Et puis maintenant, après 17 ans, on est 10 églises. Parce que de notre première église est sortie 9 autres églises depuis 17 ans. Et puis dans notre église, il n'y a plus de place. Si vous venez le dimanche matin, il faut venir 10 minutes à l'avance, sinon vous restez debout. Toutes les fois où je prêche dans mon église, il y a toujours des jeunes assis par terre autour de moi. Quand je dis des jeunes, 17-25 ans. Hein. Et puis la salle est bondée, bourrée. Et ils sont obligés de lancer en ce moment justement là. La 9e église sortie de la première de Nation, celle que j'ai fondée. Pourquoi? Parce que j'ai enseigné que la réunion de prière est la réunion la plus importante de l'Église. Dès le départ, la plus importante, je n'enlève rien au culte, mais toutes les activités d'une Église reposent sur la réunion de prière. C'est là compris pour les enfants de l'Église, pour la réunion de jeunesse de l'Église, pour les réunions de dames, pour les réunions d'hommes d'affaires, pour le culte du dimanche matin, on prie pour toutes les réunions, on est là ensemble et on crie à Dieu. Bien sûr que tous ne peuvent pas venir, il y a des cas de force majeure qui empêchent une maman, par exemple, de venir lorsqu'elle a des petits-enfants, c'est tout à fait clair, mais moi je crois que chaque chrétien devrait prendre conscience de cette nécessité de la prière, de l'intercession ensemble. Regardez l'Église, pour Pierre, elle ne cessait de prier dans cette maison de la mère de Jean surnommée Marc. Elle ne cessait de prier, mais quelle réponse! Quel exaucement! Et puis Spurgeon a dit, les hommes de Dieu, on a parlé de Spurgeon ce matin, les hommes de prière sont comme une muraille de feu autour de leur pays. Et vous ne pensez pas que le Québec a besoin, le Canada, d'une muraille de feu, et le Québec en particulier, en tout cas la France, oui. John Knox, qui a été un réformateur, John Knox, qui a introduit la réforme en Écosse, on le craignait, lui, à cause de sa puissante intercession, on le craignait, lui, est-il écrit, plus que des armées de 10 000 soldats. Tellement il était puissant dans l'intercession. Alors voilà comment priait Epaphras. Il ne cessait de prier. Ah, mes amis, que le Seigneur trouve des as parmi nous comme ça, hein? Des as de l'intercession. Et puis ensuite, il ne cessait de prier. Non, il ne cesse d'abord, il ne cesse. Ensuite, deux, quoi? De combattre. Alors parlons du combat, de l'intercession. Là, nous allons passer, je dirais, dans le monde invisible. Voilà l'aspect du combat de l'évangélisation qui nous échappe. D'abord, avant d'entrer dans le monde invisible, pour savoir ce qui se passe en ce moment au-dessus de Beauport, dans cette campagne d'évangélisation, ce qui se passe toutes les fois où réellement l'Église veut bouger pour l'avancement de l'Évangile, il est écrit en Ésaïe 59, 16, en Ézéchiel 22, 30, que Dieu cherche des intercesseurs et qu'il n'en trouve pas. C'est quand même une tristesse dans le cœur de Dieu. Parce que l'intercession, c'est pas 5 minutes, Seigneur, sauve des âmes, etc., sans savoir quelles âmes, et puis on a fini. C'est pas ça l'intercession, hein. Dieu cherche des intercesseurs. En Ésaïe 59, il est dit, Dieu s'étonne qu'il n'y ait personne qui n'intercède. À sa grande tristesse. En Ézéchiel 22, 30, il est dit, je cherche un homme qui se tienne devant moi en faveur du pays. Je n'en trouve point. Je n'en trouve point. Pourquoi est-ce qu'il y a peu d'intercesseurs? Nous allons l'expliquer. Ce mot combattre, savez-vous exactement ce qu'il est dans le grec, là? Je me suis intéressé de savoir quel était le mot grec qui a été traduit par combattre. Et j'en ai été renversé. C'est le mot agoniser. Il ne cesse d'agoniser pour vous dans ses prières. Bien sûr qu'on n'a pas rendu de cette manière-là parce que on n'aurait pas compris le sens, il agonisait. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Chacun sait ce que c'est que l'agonie. Hein? Oh, c'est un combat fantastique d'intensité. L'agonie parle d'une lutte considérable, d'une lutte formidable d'intensité. Est-ce que nous prions comme ça? L'agonie. L'agonie, c'est une lutte contre la mort dans l'énergie du désespoir. C'est ça, hein? Quand il est question d'intercession, l'agonie, c'est une lutte contre aussi toute la puissance de la mort, toutes les puissances de mort du diable, mais dans l'énergie de l'espoir, pour en voir des hommes et des femmes venir au Seigneur, pas dans l'énergie du désespoir, dans l'énergie de l'espoir. Et pourquoi y a-t-il peu d'intercesseurs? Écoutez bien cela. Parce que l'intercession, quand elle est fidèle et solide et vraie, elle a face à elle toute la puissance de l'ennemi qui veut s'opposer au salut des âmes, qui veut s'opposer à l'avancement de l'Évangile, qui veut s'opposer à l'Église, au témoignage du Christ, toute la puissance de l'ennemi. Et si vous voulez savoir ce que représente cette puissance de l'ennemi, l'apôtre Paul a dit en Éphésiens 6:12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Mais contre quoi ? Contre les puissances, les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants, ou dans les lieux célestes, tout court. Pas en Christ, pas dans les lieux célestes, en Christ. Dans les lieux célestes, retenez cela à l'esprit. Parce qu'il y a plusieurs cieux. Dans un autre texte d'Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 6, l'apôtre dit ce qui suit. Christ nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Alors on apprend rien qu'à partir de l'épître aux Éphésiens qu'il y a déjà deux lieux célestes. Un lieu infesté de démons, d'autorités, de principautés qui luttent. Et ceci, je le répète, après la venue du Christ, puisque c'est l'apôtre Paul qui le dit en Éphésiens. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Mais il y a des lieux célestes en Christ. Et pour comprendre encore mieux ce qui se passe dans le monde invisible, lisons rapidement un texte en Daniel 10 qui va nous situer de façon tout à fait claire et utile, parce que nous avons besoin de savoir ce qui se passe quand on prie. Et la plupart du temps, nous n'avons pas ce regard dans le monde invisible. Peut-être que maintenant, nous allons devenir plus efficaces dans l'intercession en sachant ce qui se passe. Daniel 10. Alors, rapidement, là encore, Daniel est en captivité. Il est inquiet de savoir le sort réservé à son peuple en captivité. Le ciel était comme d'airain sur sa tête. Alors il avait décidé de prendre le sac et la cendre pour savoir, pour connaître ce que Dieu avait pour son peuple comme plan, comme dessein. Daniel 10, 2. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Alors après, on sait ce qui s'est passé. Un ange lui est apparu. Un ange magnifique, de beauté, de gloire. Mais moi, c'est la réponse que l'ange lui a donnée qui m'a vraiment étonné. Quelle réponse ? Dernièrement, en Suisse, on m'a demandé de traiter le prophète Daniel à des chrétiens, bien sûr. Alors, on s'est plongé dans ce livre de Daniel. Et puis, en reprenant ce livre de Daniel, je me suis dit, mais ça n'est pas possible, un ange qui donne cette réponse-là. Regardez ce que l'ange a répondu à Daniel. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour, où tu as eu à cœur de comprendre, de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Alors pourquoi est-ce qu'il est venu 3 semaines après ? Dès le premier jour. Alors il explique, l'ange explique. C'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Quel combat ! Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, votre chef, l'un des principaux chefs. Alors expliquons-la. Michaël est un chef spirituel, établi de Dieu dans le monde invisible pour combattre la puissance de l'ennemi. Michaël est du côté du peuple de Dieu. Mais de l'autre côté, il y a aussi des chefs dont parle l'apôtre en Éphésiens 6:12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre ces dominations, ces chefs établis du diable. Et c'est un de ces chefs-là qui, au passage, a intercepté l'ange. Mais quel combat dans le monde invisible entre cet ange, dès le premier jour. Le Seigneur a entendu Daniel. Il a dit à l'ange, vas-y. L'ange est parti. En route, intercepté par un chef ennemi, une domination diabolique. Quel combat ! Et il a fallu que Michaël, un autre chef établi de Dieu, vienne au secours de cet ange pour lui donner de passer, pour l'aider à passer. Et même, il semble que si Michaël n'était pas intervenu, il est question de Michaël dans les Saintes Écritures, hein, quelquefois. Si Michaël n'était pas intervenu, eh bien l'ange aurait eu beaucoup de peine à passer, il ne serait peut-être même pas passé. Alors ils disent qu'il suit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, établi de Dieu, bien sûr, on sait très bien que Michael, c'est un archange, est venu à mon secours. Mais quel combat dans les lieux célestes! Est-ce qu'on a conscience de cela? Est-ce qu'on sait ce qui se passe au-dessus de Beauport en ce moment? On a besoin de le savoir. Et puis, pour bien distinguer entre le chef du royaume de Perse et les rois de Perse, l'ange poursuit au verset 13, « Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. » Il fait, l'ange, une distinction entre le chef du royaume de Perse et les rois de Perse, qui n'ont rien ensemble. Et puis, il explique encore mieux, au verset 20, ce qui s'est passé. Il me dit, de chapitre 10, il me dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi, Daniel? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef du royaume de Perse. » Ça, c'est pas le royaume de Perse, c'est pas le roi de Perse, c'est le chef, établi par Satan. Et quand je partirai, voilà, le chef de Javan viendra, c'est-à-dire de la Grèce. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne, dit l'ange, ne m'aide, moi, ange, contre ces chefs-là. Un combat de chef, là-haut, excepté Michael, votre chef. Un combat de chef dans le monde invisible. Le chrétien doit être au courant de ce qui se passe dans le monde invisible quand il lutte et qu'il combat pour l'avancement de l'évangile. Alors ceci doit nous mobiliser pour l'intercession, ceci doit nous mobiliser sur nos genoux pour l'avancement du règne de Dieu, afin de nous mettre du côté des chefs spirituels établis de Dieu, pour vaincre toute la domination de l'ennemi, toutes les principautés. Alors dans un autre texte, pour mieux saisir encore ce qui se passe là-haut, en 2 Corinthiens 12, 2, l'apôtre parle de plusieurs ciels. Il n'y a pas sept ciels dans les Saintes Écritures, hein, comme quelqu'un un jour me l'a dit. Je posais la question, combien de cieux y a-t-il? Quelqu'un a dit, sept ciels. Sept cieux. J'ai dit, ça c'est chez Bouddha, c'est pas dans les Saintes Écritures. Alors, il y a trois cieux. 2 Corinthiens 12, 2. Voici ce que dit l'apôtre. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Alors, à la lumière de ces textes, je vous pose une question. Le troisième ciel égale quoi? Le paradis. Voilà. C'est clair, hein? Il a été enlevé au troisième ciel. Et le troisième ciel, c'est le paradis. C'est ce paradis-là qui a été promis à qui? Au brigand sur la croix. En vérité, je te le dis, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis, c'est le troisième ciel. Ça, c'est le ciel du Christ, c'est la présence du Christ, c'est le paradis du Seigneur, c'est le troisième ciel. Il nous est absolument impensable qu'il puisse y avoir d'autres cieux au-dessus des cieux de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu voit tout sous ses cieux. Nous avons même lu un texte, cet an dernier, qui dit que Dieu voit sous ses pieds les cieux en bas. Nous, nous les voyons en haut, les cieux. Hein? Dieu, lui, voit les cieux en bas sous ses pieds. Hein? Alors, il n'y a rien au-dessus de Dieu. Dieu occupe l'endroit le plus élevé qui se puisse situer dans l'infini des cieux. La Bible dit que Dieu voit tout sous ses pieds. Ces lieux célestes infestés de démons, de principautés, de dominations qui luttent contre nous, contre l'Évangile, contre l'avancement du règne de Dieu, ne peuvent se situer au fond qu'entre le ciel de Dieu et le nôtre, et la terre. Et on comprend mieux alors que l'ange, envoyé du trône, en descendant à un certain niveau, Dieu le sait, a été intercepté dans cette zone infestée de démons, infestée de principautés, dans laquelle il a combattu terriblement pour passer vers Daniel. 21 jours de combat intense. Alors Michael est arrivé. Et Michael a fait reculer ce chef diabolique et il a permis à l'ange de passer. Je ne sais pas si on a conscience des combats là-haut, des combats pour le salut d'une âme. Vous savez, moi, si j'ai pour une âme, je loue le Seigneur. Une âme, je loue le Seigneur. Mais j'ai une bonne nouvelle ce matin à vous dire et je terminerai avec cela. Une nouvelle merveilleuse. les choses ne sont plus aujourd'hui ce qu'elles étaient du temps de Daniel. Je répète. Retenez bien cela. Les choses aujourd'hui ne sont plus ce qu'elles étaient du temps de Daniel. Pourquoi ? Parce que le Christ est venu. Depuis. Et pourquoi vous dites ça, Alain Choiquier ? Oh, le Christ a dit une parole que je serre sur mon cœur tous les jours. Et il est témoin que toutes les fois, avant de me lever pour venir prêcher, soit ici, soit dans le monde, ou que ce soit, je rappelle au Seigneur sa prière. Laquelle ? Pas sa prière, sa promesse. Laquelle ? Jean 1, 51. Vous verrez désormais le ciel. Quoi ? Fermé ? Le ciel ? Le ciel ? Mais je suis sourd ce matin, excusez. Vous verrez désormais le ciel. Merci. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Voilà ce qu'il dit le Seigneur. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Le ciel ouvert aujourd'hui. Oh, ce ciel qui n'était pas ouvert dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui me fait dire ça ? C'est le mot désormais. Jésus dit, vous verrez désormais le ciel ouvert. S'il a dit désormais, c'est que précédemment, ce ciel était fermé. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Et qu'est-ce que vous verrez ? Les anges monter et descendre sur le Fils de Dieu. Le ciel a été ouvert. Et comment a-t-il été ouvert ? Colossiens 2,15. Le Christ a dépouillé les puissances. Ces puissances qui ont lutté avec l'ange, là. Il a dépouillé les puissances. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles. Comment ? Par la croix. Oh, le ciel ouvert par la croix du Seigneur. Le ciel ouvert par le sang du Christ. La victoire du Seigneur. Mais il nous revient de nous saisir par la foi de ce ciel ouvert. Seigneur, accorde un ciel ouvert sur Beauport. Est-ce qu'on le lui demande ? On peut intercéder à ciel ouvert, nous, pas comme Daniel. À ciel ouvert, on peut intercéder. Mais attention, on intercède à ciel ouvert quand on entre par la foi dans la victoire du Christ sur toute la puissance de l'ennemi. Elle est dépouillée. Il a dépouillé les puissances. Il les a vaincues. Il en a triomphé en triomphant d'elles par la croix. Il les a vaincues. Elles sont vaincues. Mais quelle bonne nouvelle! Alors, on peut prier à ciel ouvert. On peut prêcher à ciel ouvert. On peut vivre à ciel ouvert. On peut travailler tous les jours dans notre travail à ciel ouvert. Le ciel ouvert sur nous, à l'usine, au bureau. Les autres ne le voient pas, mais nous, on sait que c'est vrai. On a un ciel ouvert, vous le croyez ? Le ciel est-il ouvert ? Mais attention, saisissons la victoire du Christ par la foi au calvaire, grâce à la croix, à son sang précieux qui nous ouvre les cieux. Alors si on a sur notre terre un ciel d'airain, comme me le disait hier une personne qui était là, une chrétienne, le ciel sur moi, il est comme fermé, je vous dis, madame, mademoiselle, le ciel est ouvert. Saisissez cela. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Il n'est pas fermé, le Christ l'a ouvert. Alors, saisissez par la foi, vous, dans le sang du Christ, ce ciel ouvert, afin que vous soyez heureuse et que votre vie chrétienne soit radieuse, rayonnante. Alors, des intercesseurs, où sont-ils ? Ils agonisent, c'est vrai, hein ? Ils agonisent, mais ils agonisent à ciel ouvert. Amen. Extraordinaire. Que Dieu bénisse donc cette parole et qu'elle nous reste. J'ai pris un peu plus de temps que prévu, je m'en excuse. Que Dieu vous bénisse.